Europe 1.
h18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël, le Nostradamus suisse, et je suis en mesure de vous prédire ceci. Dans les deux heures qui viennent, les limites de la vulgarisation historique vont être repoussées loin, très loin. Plus rieur que Tintin au Congo, plus accessible que Tchoupi à Versailles, Historiquement vôtre vous propose cet après-midi une spéciale que Stéphane Bern a tenu à appeler, tenez-vous bien, Voyance et histoire de boules. Bonjour quand même, Stéphane. Qu'est-ce que c'est
bonjour,
que cette idée?
Comment on peut dire bonjour quand même?
Bonjour Mathieu. Mais vous voyez le mal partout?
Oui.
Quand je dis boule, c'est boule de cristal,
bien
évidemment.
Sûr, oui.
Aujourd'hui, comme chaque après-midi, on vous raconte les destins étonnants de trois personnages qu'a priori rien ne relie. Sauf un point commun. Ils étaient tous les trois voyants. Je vous parlerai de Nostradamus, le plus célèbre d'entre tous, puis de Jean Dixon, la célèbre voyante américaine qui avait prédit que les Soviétiques seraient les premiers à marcher sur la Lune.
Raté.
Quant à vous, Mathieu, je vous avais demandé de vous pencher sur l'histoire d'un voyant plus contemporain, puisque vous rappelez dans cette émission toujours ce que l'histoire nous apporte aujourd'hui. Alors, qui avez-vous choisi?
Et j'ai choisi le plus fiable de tous les médiums, Stéphane. Paul Le Poulpe, le grand devin de la Coupe du Monde 2010. Souvenez-vous, c'était allé un peu loin, cette histoire.
Paul a encore eu raison hier soir. En plus, cette fois, Paul n'a pas blessé le patriotisme des Allemands, comme en demi-finale. Il avait pronostiqué l'Espagne, il avait eu raison. Mais certains supporters de la Mannschaft lui en ont voulu. Paul a reçu des menaces de mort, qui ont ému jusqu'au Premier ministre espagnol.
Des menaces de mort qui ont fini par lui porter la poisse puisqu'il est mort pour de bon, notre Polo. Mais tant qu'il y aura des historiens comme moi pour perpétuer sa légende, Paul vivra.
Vous l'avez compris, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire, vraiment toute l'histoire,
oui.
Des plus grands rois aux plus petits mollusques. Au sommaire, aujourd'hui et comme chaque jour, ils n'ont pas de boule de cristal, mais ils savent pourtant tout, et mieux que personne, notamment tout sur les petits secrets des grands de ce monde. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Esprit, es-tu là?
Oui. J'aimerais pas faire une soirée spiritisme avec vous. Hein.
Avec vous,
alors,
c'est flippant.
Avec elle, il faut que je vous dise,
on rentre bien profond dans l'intimité de l'histoire.
Si vous avez déjà employé cette formule, bande d'andouille, fais tourner les tables. Non, vous vous moquez, mais je suis sûr que vous l'avez
Victor
déjà
Hugo
fait.
Victor Hugo faisait ça.
Hein, exactement.
Il faisait tourner les tables.
Vous avez déjà communiqué avec les esprits.
Oui, bien sûr.
Alors retrouvez-moi dans une évocation d'Alan Kardec, le père du spiritisme, l'homme qui faisait parler les morts.
Oh mon Dieu, j'en tremble d'avance.
Et puis avec nous, il y a David Castello-Lopez.
Bonjour David. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu, ça va?
De quoi vous nous parlez aujourd'hui, mon cher David? Chaque jour, c'est l'histoire, vous nous entraînez aux origines d'un objet, d'une coutume.
Exactement, alors aujourd'hui, c'est un thème qui est au cœur de l'émission, puisque ce sont les horoscopes
sur les journaux. Ah, le premier truc qu'on lit dans le journal.
Voilà, ceux qui donnent des conseils, comme par exemple Capricorne, c'est l'heure de prendre les bonnes décisions. Voilà, un truc comme ça.
Et lui, je vais vous dire, il prend toujours les bonnes décisions, surtout en matière de cuisson. Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, Olivier?
Alors, je vois dans le marc de café que vous avez envie d'une omelette, mais pas n'importe quelle omelette. La fameuse, l'unique, la vraie omelette de la mère Poulard.
Oh, la plus chère du monde. Je crois qu'elle est à presque 50 euros quand on va à Mont-Saint-Michel.
Et 100 truffes dedans.
Oui.
Et en plus, enfin, ne l'oublions pas, il a tenté de faire jouer ses contacts à l'Elysée pour censurer cette séquence polémique de notre émission.
Ah,
mais
bon,
non, Brigitte Macron n'a rien lâché, il faut dire qu'elle adore Bern to be alive, ce quiz qui chaque jour vous permet de réaliser qu'en fait vous êtes aussi bon en histoire que Stéphane Bern. Mais une émission à deux, c'est comme un périple à cheval. Pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture. Non pas que je monte Stéphane, mais bref, découvrons plutôt l'origine des horoscopes dans les journaux.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. Lui, il écoute, il note, il recoupe et il découpe même. Et aujourd'hui, David Castello-Lopez, vous avez arraché les pages de l'horoscope des journaux juste pour nous dire d'où ça vient.
Exactement. Et alors, en préparant cette chronique, Mathieu et Stéphane, j'ai découvert quelque chose de formidable. C'est que vous avez pratiquement le même anniversaire.
Sapristi.
Stéphane, vous êtes né un 14 novembre. Oui. Et vous, Mathieu, un 13 novembre.
Ah oui.
Alors, Mathieu, j'imagine que depuis 2015, vous vous dites peut-être j'aurais préféré être le 14.
Oui, c'est vrai que j'aurais préféré finalement. Voilà. Oui, mais c'est moins.
Mais quoi qu'il en soit, si je me trompe pas, ça veut dire que vous êtes tous les deux scorpions.
Ah, ça oui.
Voilà.
Ah, oui.
Alors, je me suis renseigné sur les gens comme vous.
Ne regarde pas comme ça, franchement, ça me fait flipper.
Alors, je vois.
Non, je vois rien. Je ne vois rien du tout. Il y a des scorpions qui sont très différents. Et scorpion, scorpion, ça ne va pas.
Je me... oui. je me suis un peu renseigné sur les gens comme vous. Hein.
On est des pestiférés.
Les scorpions sont très mal vus, Stéphane.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et j'ai lu l'horoscope de la semaine et c'est pas brillant. Hein, c'est pas brillant. Apparemment, je cite, votre hiérarchie pourrait prendre des décisions qui ne vous plairont pas.
Comme nous licencier.
Ok. Voilà.
Alors,
je sais pas très bien ce que vous devez faire avec cette info, mais quand même, je vous le dis. Il y a des conseils également pour vous et en particulier celui-ci. Oui. Si vous êtes en colère, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion.
Ça, c'est un.
Oui, bah oui, Mathieu, parce que sinon, vous savez comment ça se passe.
Comment?
Après, vous m'appelez en pleurant. Vous dites, David, je suis désolé, au fond, vous savez, j'ai rien contre les Portugais, j'ai même un très bon ami portugais. Voilà, et voilà. Donc voilà, donc c'est le moment de vous amender. Alors, ce genre d'horoscope, ils sont un peu partout, hein, et on comprend pourquoi, parce que franchement, ça coûte pas très cher à faire, et les gens aiment bien. Vous avez sans doute assisté comme moi à ces scènes, c'est généralement en vacances, hein, où on achète un magazine et quelqu'un se rue dessus pour aller directement à la page de l'horoscope et déclarer juste après l'avoir lu. C'est ouf comment c'est vrai ce qui a marqué. Non, mais je dis, attends, moi, j'y crois pas, hein, mais quand même, c'est troublant. Alors, comme d'habitude, moi, j'ai voulu savoir d'où ça venait, hein, ces horoscopes dans les journaux. Alors, l'astrologie, hein, qui est quand même l'ancêtre des horoscopes, c'est-à-dire l'activité qui consiste à étudier les rapports entre la position des astres au moment de notre naissance et des traits de notre personnalité. En gros, ça a 4000 ans. Mais les horoscopes de journaux, c'est infiniment plus récent, bien sûr. En gros, ça date des années 30. Avant, c'était arrivé quelquefois qu'on publie les thèmes astro de personnalité. Mais on considère que la naissance de l'horoscope moderne, on la doit à un astrologue anglais qui s'appelait Richard Naylor et qui, le 24 août 1930, a publié le thème astral de quelqu'un que vous connaissez bien, Stéphane, puisque c'est la sœur cadette de votre amie, la reine d'Angleterre, la princesse Margaret.
Je la connaissais parce qu'elle est morte.
Et oui. on peut connaître Henri IV de réputation.
Mais j'ai rencontré plusieurs fois, disons.
Mais quoi, bam, tiens, il te le met comme ça, discrètement.
Ben oui, non, c'est clair. Et Naylor, il a publié son horoscope dans le Sunday Express, qui lui prédisait une vie mouvementée. Alors, c'est vrai qu'elle a eu une vie mouvementée. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, Stéphane, la princesse Margaret.
Oui. Elle aimait le swinging London, si vous voulez.
Oui.
Elle était moins farouche que sa sœur.
C'était la sœur coquine de la reine,
oui,
c'est ça.
Oui, exactement.
Qu'on voit dans la série The Crown. Oui, elle était un peu fofolle.
Oui, elle aimait.
Elle aimait les hommes.
Ah bah oui, ça.
Mick Jagger en particulier.
Mais tous.
Oui, tous. Tous les hommes. Tout le swinging London y est passé.
Ah bah oui.
Info Stéphane Baird d'Europe
1. Non.
Bah alors, le truc, c'est que Richard Naylor, hein, un petit peu comme d'habitude, il se fait non plus beaucoup mouillé parce qu'il a juste dit que sa vie allait être mouvementée. C'est pas hyper précis quand même. Hein. Et en plus, c'est une princesse. Donc, les princesses, quand même, elles ont souvent des vies mouvementées. Mais bon, les gens ont adoré. Et du coup, le journal a demandé à Naylor de continuer à faire des prédictions. Et quelques semaines plus tard, pour le coup, il a été précis. Il a dit, entre le 8 et le 15 octobre prochain, un aéronef anglais sera en danger. Et effectivement, il y a un dirigeable britannique qui s'est crashé près de Paris. Bon, c'était le 5 octobre, il a un peu merdé sur la date, mais quand même, sa réputation était faite.
Il a suffi de ça.
Il a suffi de ça. Et à partir de là, Naylor, il a eu le droit à un article par semaine, un horoscope, qu'il a baptisé « What the stars foretell », traduction « Ce que les étoiles prédisent », dans lequel il disait ce qui allait arriver aux gens dont l'anniversaire tombait cette semaine-là. Mais le truc, c'est que ça concernait qu'une petite partie des gens, parce que sur une semaine, il n'y a pas non plus 50 milliards d'anniversaires. Et donc, c'est quelques années plus tard que Naylor a eu l'idée, enfin, c'était peut-être son rédacteur en chef, on ne sait pas très bien, et cette idée, c'était de se concentrer sur les signes du zodiaque qui, selon les astrologues, permettent de faire des généralités sur des périodes d'un mois et non plus seulement d'une seule journée. Et à partir de là, ça a été imité dans tous les sens. Naylor, c'est devenu une star en Angleterre. Il paraît qu'il recevait jusqu'à 28 000 lettres par semaine. Mais ce qui est rigolo, c'est quand même que cette version de l'astrologie, celle de l'horoscope des journaux, elle est non seulement méprisée par les sceptiques, mais également par les astrologues plus sérieux qui considèrent que c'est une insulte à leur art.
Ah, ça c'est intéressant. Les vrais astrologues dénigrent les horoscopes
Oui, bien sûr. Parce que vous savez comment c'est fait maintenant. Ce sont des logiciels
qui
distribuent à tout le monde et qui inventent.
Ah, mais c'est-à-dire que
tout est inventé.
Pour moi, c'est faux, mais il n'y a aucun.
aucun lien avec les étoiles. C'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est de la pure invention.
Il y a un peu le lien avec les Capricornes, etc., qui, ça, sont liés à la position des étoiles un petit peu, mais enfin, c'est quand même un peu lointain, quoi.
Voilà.
Après, êtes obligé de raconter des choses pour toucher les gens. Mais vous avez vu, c'est toujours des généralités.
Ah oui, toujours. Et ça marche quasiment tout le temps. Ça peut toujours être appliqué d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bravo, David Castello-Lopez.
Monsieur Naylor, alors je ne connaissais pas du tout l'histoire de ce monsieur Naylor. Bravo. Ouais.
Et j'ai noté, Stéphane, vous avez été impressionné, vous aussi, pour un Portugais. Il parle super bien anglais.
C'est incroyable.
L'accent, Queen's English, magnifique.
Écoutez,
l'un des plus grands aristocrates britanniques s'appelle Lord Douro, et le Douro était un fleuve qui coule depuis Wellington.
C'est le fleuve du nord de Portugal.
Exactement. Oui, parce que
Douro, on dit en portugais.
Douro, parce qu'au fond, il possède toujours tous les vignobles du Porto.
Le Porto.
Il est 19h30 sur Europe 1. Merci, David Castello-Lopez.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. 2 heures pour découvrir 3 personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser.
Et pourtant, Stéphane, nous les avons réunis de force. Sous un thème dont nous ne sommes pas peu fiers aujourd'hui, bienvenue dans notre spécial Voyance et Histoire de boules. Une émission chic et sport où nous retraçons les destins des grands voyants ou prétendus voyants de l'histoire. Et on commence par le plus célèbre d'entre tous, Nostradamus, grand manipulateur et affabulateur s'il en est. Mais rassurez-vous, Stéphane n'est pas dupe de ses prédictions, il voit clair dans ses boules.
Il y avait la gangrène à la jambe, ça devait sentir très mauvais.
Bon appétit si vous avez commencé le goûter tout de suite. Nostradamus par Stéphane Bern.
Historiquement vôtre. Le récit.
Bien avant Léonard de Vinci, bien devant lui, c'est sans doute l'homme de la Renaissance qui connaît la plus forte actualité aujourd'hui. Et cela depuis 500 ans. Tentative d'assassinat de Jean-Paul II, attentat du 11 septembre, Covid-19.
Non.
À chaque crise majeure, de nouvelles éditions des prophéties de Nostradamus inondent les librairies et les sites internet. Avait-il tout prévu ? Ou cherche-t-on à lui faire dire n'importe quoi ?
Je peux répondre ?
Vous pouvez ?
Ben non, il n'avait rien prévu. C'est bidon.
Une chose est sûre. Nostradamus est un personnage si caricaturé, tellement mis à toutes les sauces, qu'on oublierait presque qu'il a vraiment existé. Et pourtant, avant de devenir le prophète le plus célèbre du monde, Nostradamus s'est appelé Michel. Michel de Notre-Dame. Un médecin sillonnant sa Provence natale pour soigner les malades, dans la première moitié du XVIe siècle. Les temps sont durs dans le royaume de France, entre les tensions religieuses qui menacent de dégénérer à tout moment et la peste qui ressurgit régulièrement à droite ou à gauche. Le vaillant docteur de Notre-Dame fait de son mieux pour soulager ses patients. C'est un docteur en avance sur les principes d'hygiène. Figurez-vous qu'il prône le port du masque pendant les épidémies.
Ah, donc c'était plutôt un bon médecin,
excellent.
En avance sur son temps.
Vous savez, il y a une ville où on garde son souvenir, c'est Salon de Provence, c'était sa ville. Nostradamus est un docteur réputé, mais pas de quoi non plus en faire une star pour les 5 siècles à venir, non. Ce qui fait la notoriété de Michel de Nostradamus, déjà de son vivant, c'est sa deuxième activité. La nuit, le docteur s'isole pour étudier les astres et en tirer des prédictions qu'il publie dans des almanachs et signe Nostradamus.
Voilà, ça claque plus que Michel déjà pour rester à la postérité.
Dans son grand manteau sombre et avec sa longue barbe, Nostradamus a l'air d'un mage. On ne s'en inquiète pas, un médecin astrologue, rien de plus normal. C'est une époque où l'astrologie est une affaire sérieuse, scientifique même. Une époque où l'on vérifie que votre lune n'est pas en bélier avant de vous opérer. Mais un médecin qui prétend connaître l'avenir, c'est autre chose. Serait-il inspiré par le diable ou pire, par les protestants?
Pire que le diable.
À l'époque,
oui, c'était pire que le diable.
Ne faites pas d'anachronisme.
Oui, voilà. J'ai bien compris, on se situe à cette époque. Oui.
Par 2 fois, Michel de Notre-Dame est inquiété par l'Inquisition. Vous savez, à l'époque, on a la main leste sur le bûcher, l'allumette est vite partie. Heureusement, il peut bientôt compter sur une protection de choix. La reine Catherine de Médicis, qui a entendu parler de ses dons, et le fait venir à la cour et lui obtient le titre de conseiller de son mari, le roi Henri II. Et c'est ce même Henri II qui, d'une certaine manière, va lui apporter son plus gros succès. Sans hélas forcément le vouloir, en 1559, le roi décède dans des conditions horribles, après avoir reçu une lance dans l'œil lors d'un tournoi
par Montgomery. Or, Nostradamus l'avait écrit 4 ans plus tôt dans les Centuries, son recueil de prédictions. Comme vous pouvez le voir, Mathieu, faites les prédictions de Nostradamus.
Oui. Le lion jeune, le vieux surmontera. En champ bélique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera. Deux plaies, une, puis mourir. Mort cruelle.
Avouez, c'est troublant.
Style un peu télégraphique quand même.
Le vieux lion, c'est le roi. Le jeune, son adversaire, Montgomery. La cage d'or, c'est le home du roi. La joute, le singulier duel. La prophétie ne semble pas faire grand bruit au moment de la mort du roi. Mais dans les décennies qui suivent, elle devient la preuve irréfutable du don de voyance de Nostradamus. À partir de là, on va tout voir, tout reconnaître dans ses écrits. La fuite de Louis XVI à Varennes, la chute de l'Union soviétique et même plus récemment, la victoire de Donald Trump lui-même que la récurrence du mot « trompette » dans les prophéties avait apparemment annoncé.
Oui, bien sûr.
Bon, ça peut prêter à sourire. Mais l'aura de Nostradamus est telle que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands larguent au-dessus de l'Angleterre des milliers de tracts couverts des quatrains, prédisant la défaite du Royaume-Uni. Et les Alliés répliquent en bombardant à leur tour les villes allemandes de prospectus annonçant la chute du Troisième Reich.
Mais est-ce que Nostradamus a vraiment mentionné tout ça?
Bon, en réalité, les prophéties sont un texte très alambiqué, très compliqué, un mélange de français, d'occitan, de latin. Les lieux et les dates ne sont jamais précis, évidemment, si bien qu'en fait, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Au fil des ans, beaucoup de prédictions annoncées par les interprètes de tout poil ne se sont pas réalisées, comme la mort du pape Jean-Paul II à Lyon, la ville entre deux fleuves. Vous vous souvenez, on avait annoncé ça pour 1986. De son vivant aussi, Nostradamus semble avoir fait 2-3 erreurs. Il avait ainsi prédit un très long règne au roi Charles IX, l'un des fils de Catherine de Médicis. Bon, il est mort à 24 ans. Était-il pour autant un imposteur, un charlatan? Ou n'avons-nous simplement pas compris son message? Je vous livrerai dans un instant le véritable secret de Nostradamus. Mais ce que je vois là, je vois...
Que voyez-vous, Stéphane?
Je vois une page de publicité.
Oh,
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors, mon cher Stéphane, une fois de plus, vous êtes interrompu pile au moment où vous deviez nous révéler le secret de Nostradamus. Était-ce juste un moyen habile de tenir l'auditeur en haleine ou avez-vous, comme Nostradamus lui-même, de vraies révélations à nous faire? Vous seul avez la réponse.
Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, n'est pas une figure consensuelle, vous l'avez bien compris. Encore de nos jours, ses écrits font débat, comme à l'époque de leur écriture au XVIe siècle. Pourtant, il n'est pas un fol énergumène. Son message est effrayant, vous pensez?
Je le pense, Stéphane.
Il ne fait que copier la Bible. Où la peste, la famine et la guerre sont les châtiments de ceux qui s'éloignent de Dieu. Son message n'est pas clair? C'est simplement parce qu'il ne faut pas essayer de comprendre, mais il faut s'en remettre totalement à Dieu. Au passage, c'est un joli pied de nez aux catholiques et aux protestants qui, chacun de leur côté, prétendent savoir ce que Dieu veut. À sa manière totalement angoissante peut-être, Nostradamus est en fait un humaniste qui s'oppose à la guerre et aux conflits religieux. Arrêtez donc, Mathieu, de chercher à savoir quand aura lieu l'Apocalypse. Et méfiez-vous surtout de ceux qui prétendent vous en indiquer le terme. Et quand même, il y a une chose, pardon de faire cette incise, ça m'a toujours fasciné. Vous connaissez la mort de Catherine de Médicis?
Non, mais vous allez nous la raconter brièvement, Stéphane. Brièvement.
Un voyant avait dit à la reine, « Madame, vous mourrez près de Saint-Germain. » Alors elle fuyait tous les Saint-Germains. Saint-Germain-l'Auxerrois, la paroisse des rois de France en face du Louvre.
Le comte de Saint-Germain.
Saint-Germain-en-Laye, où il y avait le château, évidemment. Et elle est dans sa chambre à Blois. Puis, on pense que son dernier moment arrive, elle est en train de mourir et tout le monde est inquiet, sauf elle. Elle dit « Mais non, je ne suis pas Saint-Germain, je ne risque rien. » Quand même, son fils va chercher un prêtre pour l'extrême onction. Le prêtre s'avance et lui dit « Majesté, confessez-vous, etc. » Et elle lui dit « Comment vous appelez-vous ? » L'abbé de Saint-Germain.
Oh non !
Une demi-heure après, elle était morte.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, Nostradamus était-il un vrai voyant ou bien un charlatan fini? Où le situer en termes de crédibilité sur une échelle qui irait de Paco Rabanne à Paul le Poulpe? Pour répondre à cette question, nous sommes cet après-midi avec Nicole Edelman, maîtresse de conférence honoraire en histoire contemporaine à l'Université Paris 10 Nanterre. Bonjour, déjà, Nicole Edelman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Vous avez notamment publié « Histoire de la voyance et du paranormal du XVIIIe siècle à nos jours » aux éditions du Seuil et « Les métamorphoses de l'hystérique » aux éditions de la Découverte. Alors, Nostradamus est loin de faire l'unanimité, pour user d'une litote. La grande question, c'est est-ce qu'il était vraiment voyant ou bien un imposteur, un charlatan? Et déjà, est-ce que c'est une question à laquelle on peut répondre si facilement, finalement, si plus complexe?
Oui, on peut répondre parce que c'est ni un voyant ni un charlatan, c'est un médecin. Et il faut, en bonne historienne, se replacer dans les conditions de pensée de l'époque. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Stéphane Bern, bon, il y a une croyance dans l'influence des astres. Et en effet, à chaque partie du corps correspond un signe du zodiaque. Le bélier, c'est le cerveau. Le capricorne, c'est le genou.
Connaissez-vous le scorpion? Ça nous intéresse. Avec...
Le scorpion.
À quelle partie du corps sommes-nous reliés?
À votre avis,
j'ai peur.
Alors, la tête, c'est le bélier. Les pieds, c'est le poisson. Les bras, c'est le gémeau. Le genou. Alors, il y a un homme anatomique zodiacal. Vous allez chercher ça sur...
Mais
il n'y a peut-être pas de correspondance étroite. Ou alors, c'est une petite partie du corps qu'on connaissait pas.
On étudiait l'astrologie à l'époque, et Michel de Notre-Dame n'y échappe pas, comme étant une science et qu'on apprenait, qui était valorisée d'ailleurs.
Mais non seulement, bien sûr, il n'y avait pas de différence entre l'astrologie et l'astronomie.
Excusez-moi, j'ai fait une petite recherche rapide, et malheureusement, ce n'est pas une blague, le scorpion gouverne les organes génitaux et le rectum. Bon.
Je vous l'ai dit, Incoda Venenum.
Nous sommes effectivement scorpions. Voilà.
Bon,
vous n'avez jamais vu un vrai scorpion?
Ben oui, j'ai déjà vu un
scorpion.
Il pique avec quoi le scorpion, le vilain scorpion? Avec sa petite queue.
Voilà.
Eh oui. Merci
voilà.
Stéphane.
Voilà,
c'était
une insiste.
Revenons
devant la plus grande spécialiste.
Essayons de retrouver une certaine forme de dignité.
Des métamorphoses de l'hystérique dont vous avez donné un exemple.
Exactement. Parfait.
Oui, on peut faire le lien, en effet. C'est pas celui que j'avais fait quand je suis passée de l'un à l'autre, mais je l'accepterai volontiers. Organes génitaux jouent un grand rôle, en effet, dans les interprétations de l'hystérique.
Madame Edelman, c'est vrai que à l'époque, les médecins étaient tous astrologues.
Oui, parce que l'astrologie et l'astronomie étaient, c'était la même chose. Il y avait une astronomie naturelle, c'était les astres, une astronomie judiciaire. Mais puisqu'on pensait qu'il n'y avait pas de profondeur, il faut attendre Galilée, Copernic, pour montrer que la Terre tourne autour du Soleil, qu'il y a une profondeur, et comme vous l'avez dit, c'était l'Inquisition quand même. Giordano Bruno, il est passé au bûcher. Et Galilée, il a dit non.
Je renonce à tout ce que j'ai dit. On va continuer de parler sur Europe 1 de nos voyants de l'histoire, et de Nostradamus en particulier, avec notre invité Nicole Edelman. A tout de suite.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui ose aborder de front les thèmes les plus polémiques de l'histoire. Aujourd'hui, sans nous soucier du qu'en dira-t-on et des réactions des uns et des autres, nous vous proposons une spéciale voyance et histoire de boules. 2 heures pour percer à jour 3 soi-disant voyants illustres, à commencer donc par le plus fameux d'entre eux, Nostradamus. Nous sommes toujours avec l'historienne Nicole Edelman. On peut interpréter les prophéties de Nostradamus de différentes manières. Ça veut dire au final qu'on peut lui faire dire n'importe quoi à Nostradamus?
Ah oui, absolument. Vous avez lu quelques extraits. On peut lui faire dire absolument n'importe quoi.
Mais il y a un extrait qui était quand même le truc du lion jeune, le vieux surmontera en chambélique par singulier duel dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Enfin, il y a quand même. Soit ça a été écrit en fait après et on lui a prêté cette prédiction, soit si la prédiction est celle-ci, ça correspond vraiment à ce qui est arrivé au roi.
Oui,
c'est assez.
Ça
étonnant
correspond
quand même.
Parce qu'on l'applique à cela, mais ça pourrait correspondre à n'importe quoi, à une chasse, à un duel.
C'est vrai.
Il y a un garçon qui s'est fait connaître, maintenant il n'est plus de ce monde, c'est Jean-Charles de Fontbrune. Ouais. Que vous avez peut-être lu,
ses
livres.
Oui,
j'imagine. Ouais. C'est assez.
Racontez-nous ce que c'est.
Jean-Charles de Fontbrune prenait tous les quatrains de Nostradamus. Je parle sous votre contrôle, Madame Edelman. Et donc, il les, il les interprétait et a posteriori, évidemment, pour dire ce qui allait se passer. Mais par exemple, l'immigration, les grandes vagues de migrants, tout cela, il l'avait prévu en faisant une exégèse des quatrains de Nostradamus.
Oui, par exemple, la Roumanie, la Germanie et l'Espagne feront diverses sectes par main militaire. Et ainsi, il dit que Franco va devenir dictateur de l'Espagne.
Bon. Oui, c'est une interprétation un peu large, un peu
On peut interpréter de
Et vous en avez pensé quoi en lisant? Parce que ça, il vendait très bien ses livres, tout le monde y croyait, dur comme fer. Enfin, ceux qui lisaient, en tout cas.
Oui, c'est un moment où on a, dans tous les moments difficiles de l'histoire, et malheureusement, il y en a énormément en ce moment en particulier, mais on a besoin, semble-t-il, d'être rassuré. Et l'astrologie va jouer un rôle idéologique, et en particulier avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre. Vous avez parlé des tracts qui sont envoyés, c'est quand même fascinant.
Pourquoi Nostradamus, selon vous, reste le pivot central des grands voyants
parce
de l'histoire?
Il y a dû en avoir d'autres. Enfin, on parle toujours de Nostradamus. Par exemple, dans cette époque-là, il n'y avait que Nostradamus. Il y a dû avoir des concurrents.
Bien sûr, mais je crois que là aussi, vous l'avez dit, il a été quand même valorisé par la royauté. En plus, c'était un grand médecin qui a vraiment cherché, en fonction des liens avec les astres, quand vous avez parlé d'une opération qu'il ne faut pas faire quand la Lune est en relation avec Vénus, par exemple, c'est exactement ça. Vrai. Et l'almanach joue un rôle très très important.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, pardon, mais en Chine, on fait très attention à cela. En Inde aussi, on ne se fait pas opérer certains jours.
C'est vrai.
On se marie en fonction
de... Oui, mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est validé scientifiquement?
Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que beaucoup de sociétés, on continue de vivre comme cela.
Oui, je crois que ça montre combien la voyance est vraiment un phénomène de l'humanité qui semble en avoir une sorte de besoin. Mais chaque époque et chaque espace territorial et géographique l'interprète à sa façon. Hein. Soit c'est la science, soit c'est les astres, soit c'est une intuition, soit c'est les trois à la fois. Mais chaque interprétation là est différente. Et Nostradamus a joué ce rôle à cause sans doute de cette importance de la médecine à cette époque.
J'ai une ultime question pour vous, extrêmement importante, Nicole Edelman. Nostradamus faisait-il de bonnes prédictions? On ne le saura peut-être jamais. En revanche, il paraît qu'il faisait de bonnes confitures. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire?
On me l'a raconté, oui, mais j'aimerais bien
les... Et oui. C'est Olivier Pouls qui nous avait dit que Nostradamus était connu pour ses recettes de confitures, un traité à la fois thérapeutique et culinaire. Voilà, il a jamais voulu écrire pour la voyance, il était fait pour la confiture. Nostradamus, c'est un peu le résumé qu'on peut tirer de tout ça. Nicole Edelman, une fois n'est pas coutume, vous restez avec nous pour nous parler de Jean Dixon et la voyance au XXe siècle qu'on abordera dans la deuxième heure de cette émission.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre. Notre balade quotidienne sur les sentiers pas toujours battus de l'histoire continue. Avec une séquence que je confesse aimer un peu trop.
Oui, et quand Stéphane confesse quelque chose, c'est pas comme nous une expression. Il s'est vraiment confessé auprès de l'abbé Bitard dans le secret de la sacristie d'une église normande. Et pour cause, c'est le péché de luxure qui pend au nez, et pas que de ce cher Stéphane, qui voue un culte un peu trop prononcé aux à-côtés érotiques de l'histoire, ce qui parfois lui en donne une vision biaisée. Ainsi, n'a-t-il pas déclaré dernièrement, à la stupéfaction de tous nos auditeurs:
vous savez, l'histoire a commencé comment? Par un coup de rein.
Mon fils, vous êtes avec ces propos hérétiques en contradiction totale avec la Genèse telle que la Bible la raconte, lui a soufflé l'abbé Bitard. La punition est tombée. Pas de sexe dans la chronique de Clémentine Portet-Kaltenbach aujourd'hui.
Alors Clémentine, c'est vrai, pas d'alcôve, pas de lien de débauche. Non,
rien de tout ça?
Pas un cimetière, pas des eaux,
Mais si. De l'alcôve, bien sûr, de l'alcôve, avec Allan Kardec, le père du spiritisme, l'homme qui faisait parler les morts. Et où fait-on parler les morts, sinon dans l'alcôve, hein? Une alcôve capitonnée, enfin, il faut le plus grand silence et une grande concentration. Alors, qui était-il cet homme? Il est né en 1804 et son vrai nom est Hippolyte Léon Denisard Rivaille, alias Allan Kardec. Il s'est désincarné en 1869. Et oui, vous et moi, messieurs, nous mangeons les pissenlits par la racine, mais lui, selon ses disciples, il s'est désincarné.
Ah, c'est chic, ça.
En tout cas, il y croyait dur comme fer et il en a fait son épitaphe. Naître, vivre, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi. Alors attention, Allan Kardec était tout sauf un farfelu. À l'origine, d'ailleurs il est lyonnais comme vous. Hein.
Ça n'empêche pas d'être un peu lu, hein. On a un très bon exemple à gauche.
C'est l'esprit d'escalier. À l'origine, c'est un instituteur catholique lyonnais. Il a beaucoup écrit et réfléchi à la manière d'enseigner. Il a publié de nombreux manuels et il devient directeur d'un institut pédagogique à Paris. Et un jour, un cercle spirite fait appel à lui pour mettre un petit peu d'or dans le fouillis des communications reçues des esprits lors des séances de table tournante. C'est une pratique qui est...
Clémentine,
oui.
L'invité, notre invité, Nicolas Delmas,
elle est pas
fait
d'accord.
Non du doigt. Alors il va y avoir, attention, clash, polémique, buzz.
Oui, alors là, je m'incline dès à présent
que
car ma science d'Alan Kardec n'est pas extrêmement pointue, je dois le confesser.
Dites-nous, qu'est-ce qui vous a chagriné dans ce récit?
C'est pas une société spirite, puisque c'est lui qui invente le spiritisme, cette religion
scientifique.
Et il prend contact avec ce qu'on appelle à l'époque, on va en parler tout à l'heure, je pense, des somnambules magnétiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont, c'est surtout des femmes, mais pour d'autres raisons genrées dont on pourrait parler plus longuement, qui sont en état d'hypnose. Et ça vient des tables tournantes qui étaient nées aux États-Unis. Et du coup, il va entrer en lien avec des somnambules magnétiques, il en a choisi quelques-unes, et il va leur poser des questions, et elles vont leur dire qu'elles sont en lien avec des esprits extraterrestres qui prennent leur canal, elles deviennent des médiums. Ensuite, à partir de là, il va écrire le livre qui est la Bible, le livre des esprits, qui paraît en 1857, et la religion spirite naît. Voilà. Et elle a un succès énorme.
J'ai trouvé surtout sidérant, c'est que sa revue spirite qu'il a fondée en 1858 existe toujours et fonctionne très bien. Hein. Alors l'idée, sous contrôle de la grande spécialiste de la spécialité, c'est qu'en fait notre dépouille mortelle est comme un manteau, elle est périssable. Notre âme est immortelle, mais notre périsprit,
ça s'appelle l'hindouisme.
Une sorte d'enveloppe fluidique double éthérée de notre corps terrestre, impalpable, invisible, peut se matérialiser, vous le disiez à l'instant, madame, sous l'influence de sujets dotés d'une sensibilité supranormale, les médiums. Et c'est par l'intermédiaire du périsprit que l'âme désincarnée communique avec les vivants. Alors, ces séances de spiritisme ont un très bon côté, c'est qu'elles ont permis à Denisa Rivail de découvrir que dans une vie antérieure, il était druide dans une tribu gauloise, sous le nom d'Alan Kardec.
Oh
et
non.
C'est, et oui, et c'est justement parce qu'il est la réincarnation d'un genre de panoramix que sa tombe est agrémentée d'un dolmen. Alors, si vous souhaitez...
Comment on peut savoir ce qu'on était dans une vie d'avant?
Attends, je vous l'explique tout de suite. Vous pouvez aller vous recueillir sur la tombe d'Alan Kardec au Père Lachaise. Dites-vous bien que vous ne serez pas seul parce qu'elle est aujourd'hui encore l'une des plus visitées, des plus fleuries du cimetière. Mais oui, si vous n'avez pas froid aux yeux, vous pouvez toucher le buste d'Alan Kardec. Il est supposé pouvoir exaucer tous les vœux. Idem pour la tombe de Mademoiselle Lenormand, hein, célèbre diseuse de bonne aventure, astrologue. Alors, là, sur la tombe de Mademoiselle Lenormand, si vous avez une peine de cœur, vous devez déposer une nuit de pleine lune la carte de l'as de cœur dans un recoin de sa sépulture. Des problèmes d'argent, un as de carreau. Si vous voulez devenir le plus grand médium de tous les temps, il faut cacher tout un jeu de cartes sur la tombe de Mademoiselle Lenormand et venir le rechercher le lendemain matin. Donc vous pensez bien évidemment que je l'ai fait. Et depuis ma visite au Père Lachaise, je suis moi-même devenue spirite. Et je puis vous faire là tout de suite mes prédictions pour 2021. Attendez, je me concentre. Alors voilà ma prédiction. Cette année, les aveugles ne verront que bien peu. Les sourds entendront assez mal. Les muets ne parleront guère. Les riches se porteront un peu mieux que les pauvres et les bien portants mieux que les malades. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. Eh bien voilà, cette prédiction, messieurs, en fait, n'est pas de moi. Elle date du 15e siècle et m'a été soufflée par le périsprit de son auteur. Stéphane, vous avez raison, un certain François Rabelais.
Parfait, merci.
Parfait,
Clémentine. Restez avec nous,
Nicolas Delmas.
Bon, si ça tenait qu'à moi, évidemment, on éviterait
cette
le
séquence. Hein. Ah, vous n'avez pas cette séquence. Hein. Vous restez tous là, on va jouer.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre. Aujourd'hui, notre thème voyance et histoire de boules nous entraîne dans le sillage des plus grands voyants de l'histoire. Mais pour la séquence qui vient, nul besoin de boules, ni de mare de café, ni d'entrailles de biche pour deviner qui va l'emporter. Oui, c'est l'heure de tester les connaissances de Stéphane Bern en l'opposant à Clémentine Portier-Kaltenbach. Jouons à Bern to be alive. Ce quiz est simple, mais aujourd'hui, Petit supplément, nous avons la chance d'être toujours en studio avec Nicole Edelman, professeure émérite. Vous avez le droit de tourner vers elle pour lui demander conseil. Vous avez droit à un joker chacun durant ce quiz.
Voilà. On peut appeler un ami.
Vous appelez une amie en la personne de Nicole Edelman. Question numéro 1 pour vous, Stéphane Bern. Oui. On connaît les religions monothéistes. Un seul dieu, on connaît l'hindouisme, une religion polythéiste, qui est une des plus vieilles au monde. Chose incroyable, Stéphane. Elle vénère 30 000 dieux. Vrai ou faux? L'hindouisme, 30 000 dieux.
Moi, je croyais que c'était juste...
Vishnu et...
Shiva et...
Oui, oh, non, 30 000, ça fait beaucoup quand même.
Ils ont plein de bras.
Ouais. Oui, puis il doit y avoir plein de petites divinités
locales.
Quelle
est votre réponse, Stéphane?
Je réponds faux, voilà. Puis,
vous répondez faux, ce qui est un scandale, parce que vous allez avoir le point, puisque c'est faux. Mais en réalité, vous avez un raisonnement qui est tout à fait faux, puisqu'elle en vénère plus de 300 millions. Citons Brahma, la guerre, et Vishnu, la pécrée. Même sur un malentendu, il arrive à gagner. C'est quand même le plus grand filou de l'histoire, si j'ose dire. Alors, question numéro 2 pour vous, Clémentine. N'oubliez pas que vous avez le joker. Hein. Après examen du fémur de Guillaume le Conquérant, on sait qu'il mesurait environ 1m73, soit 10 cm de plus que ses contemporains. Vrai ou faux?
Alors, est-ce que Guillaume le Conquérant, est-ce qu'il était très grand? Il était en tout cas très gros, il fallait le hisser sur son cheval, un peu comme Henri VIII à la fin de ses jours. Mais ça n'était pas non plus, est-ce que ça n'est pas Rollon qui avait des grands pieds, là, dont les légendes traînaient quasiment au pied de son cheval? Je pense que Guillaume le Conquérant devait quand même être, dans mon idée, et d'après la tapisserie de Bayeux, pour moi, oui, c'était quand même un grand homme, j'y répondrai oui.
Voilà, avec Clémentine, on a en plus tout le cheminement intellectuel. Effectivement, c'est une bonne réponse, Clémentine. C'est le seul os à avoir survécu à la destruction de ses restes. Il a été retrouvé dans le caveau de l'église Saint-Étienne de Caen en 1983. Et si, comme moi, vous aimez Guillaume le Conquérant, je ne saurais trop vous conseiller ce soir, sur France 3, l'excellent numéro de Secret d'Histoire présenté par le non moins excellent Stéphane Bern. Je le connais un peu, très sympa. Question numéro 3 pour vous, Stéphane, justement. En 1943, aux États-Unis, quand on a construit le Pentagone, le quartier général de la Défense, on a prévu de quoi recevoir des extraterrestres avec des lits pour extraterrestres et même des toilettes pour extraterrestres. Vrai ou faux, Stéphane? Concentrez-vous bien pour celle-ci.
Je sais qu'en Amérique, quand même, ça les fascine, hein, les extraterrestres.
Comment veux-tu concevoir des toilettes pour extraterrestres, Stéphane?
Des toilettes pour extraterrestres, non. Imaginez comment sont physiologiquement bâtis les extraterrestres.
Maison. Non.
Très belle imitation bonus.
Non, écoutez, franchement,
quelle réponse, Stéphane?
Pour moi, c'est faux, et quand bien même ce serait vrai, je leur...
Vous n'auriez pas envie que ça le soit.
J'ai pas envie que ce soit.
Vous avez... gagné!
Il a gagné! Bravo Stéphane, c'était faux. Par contre, au moment de la construction du Pentagone, la ségrégation raciale était encore bien dans les esprits. La preuve, il y avait des toilettes pour les blancs d'un côté et les noirs de l'autre au Pentagone. Effectivement, ça ne concernait pas les extraterrestres. Question numéro 4, Clémentine. Attention, la chapelle de Bethléem, qui se situe en France, en Loire-Atlantique, a été classée monument historique le 30 août 1911. Elle a une particularité, cette chapelle. Quand il pleut, l'eau coule à l'intérieur et alimente les bénitiers. Vrai ou faux?
Alors ça, c'est étrange. Ça voudrait dire qu'on laisserait délibérément un trou dans le toit pour que l'eau s'écoule dans les bénitiers. Ça serait une particularité étrange et intéressante qui peut tout à fait répondre que je réponde oui.
Moi, je répondrais oui aussi, parce que pour que la question soit formulée comme ça, ça ne peut être que quelque chose de vrai. Moi, c'est le raisonnement que j'aurais fait. Mais la personne qui prépare ce quiz est tellement dingue que non, c'est faux. Mais tout ça pour nous dire, parce qu'il y a toujours une anecdote derrière. Elle se situe, cette église, elle existe, elle est près de Nantes, et en 1995, les gargouilles ont été refaites. Du coup, elles sont à l'effigie de Goldorak, de Dark Vador, de Gremlins et d'Alien. Voilà la spécificité de cette église, et qui n'a rien à voir avec l'eau de pluie. C'est Stéphane qui a gagné, fini. C'est une deuxième victoire d'affilée pour Stéphane Bern. Oui, que se passe-t-il, Stéphane?
Mais non, mais je ne sais pas pourquoi vous contestez.
Il se dope. Vous contestez. Moi, je voudrais un contrôle antidopage.
Mon leadership, si vous voulez.
Mais vous savez ce qui s'est passé une fois. Je le rappelle à nos auditeurs qui n'étaient pas là ce jour-là. Stéphane, malencontreusement, il avait les réponses du quiz à côté. Et il faisait mine de ne pas les avoir. Non. Et bizarrement, étrangement, il avait toutes les réponses. Il a eu un rapide coup d'œil. Il a été trahi par son regard furtif sur la gauche.
C'était au début de l'aventure.
C'était surtout honteux. Bravo quand même, Stéphane.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Deux heures d'histoire décomplexée et rieuse pour découvrir en s'amusant. Vous écoutez Historiquement Vôtre. On rappelle notre concept, Stéphane, trois personnages qui, sur le papier, n'ont rien à voir, mais qui ont un point commun.
Oui, exactement, Mathieu. Et ce point commun, c'est la voyance. Après Nostradamus, je vous raconterai l'histoire moins connue de la voyante Jean Dixon, l'une des plus célèbres des États-Unis, dont les prédictions se sont le plus souvent avérées douteuse, dirons-nous, voire fausse, pour être tout à fait juste. Et vous reviendra ensuite, mon cher Mathieu, l'honneur de nous dépeindre un personnage beaucoup plus récent. Dans 99% vrai, au terme d'une enquête presque irréprochable, vous nous livrerez le portrait d'un voyant contemporain, lui.
Oui, et quel voyant, Stéphane, car contrairement à votre Jean Dixon, lui, il avait tout bon. Je vous parlerai de Paul le Poulpe.
Au programme de cette deuxième heure également, Mathieu, nos voyageurs du temps. Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, nous raconte l'histoire des recettes et de la cuisine dans Papy de la Nation, aujourd'hui justement.
Hein ?
Octopussy.
Oh non ! Ah bah le poulpe ! Ah non, je vous interdis, non,
je plaisante. Non, il nous a promis, vous vous souvenez, l'omelette de la mère Poulard.
C'est mieux.
C'est pour éviter de vous faire pleurer.
C'est plus consensuel.
Par contre, votre portefeuille... vraiment pleurer.
C'est vrai que c'est
je sais que vous êtes sensible sur le sujet, Mathieu.
Je le suis. Stéphane, vous êtes brillant. Avec votre mot de la fin, chaque jour, vous nous dévoilez l'origine d'une expression. Aujourd'hui,
faire son faillot.
Vous êtes tellement brillant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
vôtre. C'est un thème qui plaît énormément à Stéphane Bern aujourd'hui. Historiquement Vôtre vous propose une spéciale voyance et histoire de boule, un domaine dans lequel on trouve beaucoup de charlatans, certes, mais aussi quelques charlatanes. Voici l'histoire de Jean Dixon.
Historiquement Vôtre. Le récit.
C'est la voyante la plus célèbre des États-Unis, la plus médiatique aussi. Pendant de longues années, dès les années 1950, Jean Dixon a noirci les lignes d'une rubrique astrologique reproduite dans de nombreux journaux et magazines du pays. Pourtant, Jean Dixon s'est surtout trompée. Israël envahi par ses voisins en 1988, défaite de Clinton en 1992, l'Europe intégralement communiste. La médium a aussi vu l'apocalypse dans les années 80. Un bilan relativement mitigé qui ne l'a pas empêché de mener une carrière extraordinaire jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. C'est un peu, voyez-vous, la Elisabeth Tessier américaine.
Vous voulez dire qu'elle et Bill Clinton, par exemple
non, non, mais surtout Elisabeth Tessier s'est trompée sur tout.
Sarkozy
est réélu, etc. Avec ses petites ailleurs ajustées, ses lavalières et sa croix dorée autour du cou, Jean Dixon n'a pas exactement le profil de la médium transportée par les révélations. Elle est plutôt la parfaite housewife bourgeoise des années 60. Sur sa tête, toujours un petit chapeau à la Jackie Kennedy. Vous savez, similaire à celui que la First Lady portait en rose le jour de l'assassinat de son mari. Et justement...
Oh,
cet assassinat, Jean Dixon l'avait prévu 7 ans plus tôt dans un magazine. La présidentielle de 1960 sera remportée par le candidat démocrate, écrit-elle alors. Un homme beau et jeune, aux cheveux bruns, et qui mourra ou sera assassiné pendant son mandat. Bon, avouez que c'est troublant.
Ça, c'est troublant.
La mort de JFK en 1963 à Dallas lui assure une notoriété extraordinaire. Sa première biographie se vend à plus de 3 millions d'exemplaires dans le pays. Tout est fait pour entretenir le mystère du personnage. On ne connaît pas son année de naissance. On sait simplement que son don a été repéré dès l'enfance par une voyante qui lui offre sa première boule de cristal.
Vous vous souvenez de ma date d'anniversaire, Stéphane ?
Oui, c'est au mois de novembre.
Bah,
mais je ne me souviens plus de la date.
C'est le 13,
novembre.
Juste avant vous, c'est le 14, c'est pas compliqué quand même.
Oui, d'accord.
Une belle boule pour mon anniversaire, s'il vous plaît.
Très bien. De glace.
Évidemment.
Mais ses prédictions, Jean Dixon dit les tenir directement de Dieu en remerciement de sa grande foi. L'esprit qui a traversé les prophètes Isaïe ou Jean le Baptiste, c'est tout simplement le même souffle à travers elle. De quoi appâter l'homme politique soucieux de faire les bons choix pendant des mois par l'intermédiaire de sa secrétaire, Richard Nixon, alors président des États-Unis, va prêter l'oreille aux prédictions de la voyante.
Elle avait vu le Watergate ?
Son influence est telle que son présage d'attentat sur le sol américain, dans la foulée, vous savez, de la prise d'otage au JO de Munich en 1972, pousse le président à mettre en place un comité antiterroriste.
Mais c'est dingue, en plus elle était nulle.
Oui,
Mais quand même.
Mais à part l'attentat, même pas l'attentat d'ailleurs, à part la mort de JFK, qu'est-ce qu'elle avait vu?
Rien.
Rien.
Hélas, Mathieu, l'esprit saint qui la parcourt semble de plus en plus rouillé.
Aïe.
Jim Dixon annonce tour à tour une troisième guerre mondiale en 1958, un soviétique posant le premier pied sur la Lune, ou encore un déluge de bombes atomiques sur l'Europe. À vrai dire, même la prédiction concernant Kennedy est à relativiser. Quelques mois après sa première prédiction, Jean avait annoncé que ce serait finalement Nixon et pas Kennedy qui remporterait l'élection, se contredisant du même coup totalement. Pour ses détracteurs, Jean Dixon a tout simplement prédit tout et son contraire. C'est ce qui a inspiré cette boutade à un historien de Stanford. Avec Jean Dixon, tout va se réaliser un jour. Il suffit juste d'attendre suffisamment longtemps. Dans les années qui suivent, la médium se montre plus prudente. Dans une tribune pour le New York Times, à l'aube de la présidentielle de 1988, Jean explique que George Bush, un Gémeau, est davantage compatible avec les États-Unis, qui sont du signe du cancer, que son adversaire, le scorpion Michael Dukakis. Oui, car les États-Unis sont du signe du cancer.
Ah oui, je ne savais pas, ça c'est
oui,
bien vu.
Oui, chaque pays a son signe.
Ah, très bien.
Ça ne veut pas dire que Bush va gagner, précise-t-elle simplement qu'il est plus en phase avec son pays. Une esquive un peu facile, mais qui prouve l'aplomb et l'ingéniosité de son auteur. À l'époque où il la recevait dans le bureau ovale, Nixon lui avait d'ailleurs confié « Vous, vous pourriez vendre n'importe quoi ». Et c'est peut-être là le vrai talent de Jean Dixon. Avoir su mener une impeccable carrière de businesswoman. Car on va le voir, Mathieu, la médium ne s'est pas laissée abattre par ses erreurs de pronostic.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue chaque jour. Trois personnages qui ne vivaient pas au même endroit ni à la même époque, mais qui se retrouvent dans une passion. Aujourd'hui, celle d'arnaquer les autres. Et pile entre Nostradamus et Paul le Poulpe, il y a eu Stéphane, Jean Dixon, dont vous nous racontez l'histoire.
Nous venons de le voir, Jean Dixon n'a pas exactement été l'oracle le plus précis de l'histoire de la divination.
Et c'est le moins qu'on puisse dire.
Et pourtant, sa crédibilité n'en a pas tellement souffert auprès de son public. C'est ce qu'un chercheur a appelé le Jean Dixon Effect. Il consiste à ignorer toutes les mauvaises prédictions pour ne conserver en mémoire que celles qui se sont réellement réalisées. Toujours est-il que Jean Dixon a pu continuer sa carrière et qu'elle a été l'une des premières à faire de la voyance un vrai business. D'abord, Jean a signé une petite dizaine de livres, des autobiographies, des livres de prophétie, bien sûr, mais aussi un livre de cuisine astrologique et un livre d'horoscope pour les chats.
Parce qu'en fonction de son signe astrologique, on peut aimer tel ou tel plat, c'est ça l'idée ?
Et on y apprend par exemple que le chat vierge sait quand vous êtes malade, ce qui le rend plus utile que la plupart des autres chats du zodiaque.
Je le note.
Oui. En 1976, Jean Dixon s'associe à la compagnie de téléphone américaine AT&T pour lancer un service d'horoscope par téléphone instantané 24 heures sur 24 dont elle fait la promotion à la télé.
Je suis Jean Dixon. Vous étiez si nombreux à me demander de vous faire des prédictions. Je peux dorénavant vous proposer un horoscope 24 heures sur 24. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un téléphone à touche. Vous entendrez ma prédiction personnalisée à propos de la vie, l'amour, l'argent et aussi votre futur. Appelez-moi maintenant.
Vous aviez un téléphone à touche, vous, Stéphane ? C'est bon, vous pouviez avoir les prédictions de Jean Dixon ?
Non, mais vous ne vous rendez pas compte, Mathieu. Mais à l'époque, c'est révolutionnaire. Alors, bien entendu, la prédiction préenregistrée par Jean est interrompue par une annonce commerciale de 15 secondes. Mais ne riez pas trop. Pendant la conférence de presse de lancement de la voyance par téléphone, Jean Dixon annonce que le prochain maire de New York pourrait s'appeler Sutton. Bon, c'est pas arrivé. Mais cette année-là, il y a une femme, Lori Sutton, a annoncé sa candidature à l'élection de la mairie pour 2021.
Il suffisait d'attendre.
Si elle était... Voilà, c'est ça.
Oui,
Tout arrive pour qu'il s'est attendre. Si elle était élue, ce serait la première femme maire de New York et une revanche posthume pour Jean Dixon, décédée, elle, en 1997. Méfiez-vous doublement, car avant de disparaître, la médium Jean Dixon a également annoncé la grande bataille de l'apocalypse pour 2020.
Ah bah ça, ses partisans diront que c'est le Covid.
Mais oui.
Elle avait tout compris. Jean
elle
Dixon.
Avait raison avant tout le monde.
Oh mon Dieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour tenter d'y voir plus clair dans le jeu dangereux de la médium autoproclamée Jean Dixon, nous sommes toujours avec Nicole Edelman, maîtresse de conférences honoraires en histoire contemporaine à l'université Paris 10 Nanterre. Vous avez notamment publié, on le rappelle, Histoire de la voyance et du paranormal du XVIIIe siècle à nos jours aux éditions du Seuil et Les métamorphoses de l'hystérique aux éditions de la Découverte.
Le public qui veut croire, en fait, les prédictions, met de côté tout ce qui est les erreurs de Jean Dixon et ne garde que ce qui a pu marcher. Au fond, vous pensez que c'est nous qui donnons cette place aux voyantes et aux médiums ?
En effet, c'est voyante. Alors, vous avez utilisé le terme de médium et de voyante. Bon, on a fait le point tout
oui,
à l'heure.
Oui, c'est vrai que c'est pas équivalent.
Bon, on peut dire que elle est médium puisqu'elle passe de Dieu à ses prédictions en canal direct. En revanche, elle n'existe, alors je le mettrai au pluriel, que grâce ou à cause de nous.
À la crédibilité.
Parce que vous avez dit, elles en font un business, mais dès les premières voyantes, Mademoiselle Lenormand, je crois que son nom a été cité tout à l'heure, avec son fameux tarot, elle en fait un métier. Elle est dans le bottin qui naît au 19e siècle, ce fameux bottin. Bon, maintenant, il a disparu puisqu'on a Internet. Et c'est un métier, un métier qui peut rapporter beaucoup. Mademoiselle Lenormand, Madame
Jean Dixon a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à oublier les mauvaises prédictions et à dire, mais là, elle a eu raison pour justifier notre crédulité, peut-être.
Oui, on oublie. Et puis, en général, on écoute ces voyantes pour nous-mêmes. Donc, on les écoute en espérant qu'elles vont nous prédire quelque chose, nous promettre quelque chose.
Je vous promets une chose, et je vais tenir. On va se retrouver dans un court instant avec Nicole Edelman pour continuer à parler de ces voyants qui n'ont pas tout vu, notamment l'américaine Jean Dixon. Et je vous promets qu'on reste sur
Europe 1. Elle n'est pas voyante, elle est médium.
Oui, pardon.
Concentrez-vous, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Quelle fierté ça avait été pour moi d'annoncer à ma grand-mère que cette saison j'arrêtais les conneries pour présenter une émission d'histoire avec Stéphane Bern. Rassure-moi, poussin, ça sera chic, m'avait-elle demandé. Oh oui, bien sûr, mamie, avais-je répondu, conscient qu'une partie de mon héritage en dépendait. Et sans savoir qu'un mois plus tard, je me retrouvais aux commandes d'une spéciale Voyance et Histoire de Boule. Désolé, mamie. Une émission néanmoins passionnante où nous retraçons les destins de ces voyants autoproclamés qui ont marqué l'histoire. Voyant et médium, on a appris à faire la distinction. Et on parle de Jean Dixon avec Nicole Edelman. Nicole, à quel moment la voyance devient-elle un métier ? Il n'y a jamais eu de voyant gratuit ?
Si, il y en a.
Il y en a ?
Bien sûr.
Mais alors c'est peut-être eux les vrais, parce que tout de suite,
on dit parce que suspect. Ils disent que quand ils font payer, leur don disparaît.
Elles disent. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a une renaissance de la voyance. On a parlé de l'astrologie, Nostradamus. Ouais. Qui lui s'appuyait sur l'astrologie, la médecine et l'astrologie. Or, l'astrologie, elle va devenir une affaire de charlatanisme à partir du moment où les découvertes de la profondeur de l'espace sont faites. On voit une renaissance de la voyance à la fin du XVIIIe siècle, exactement en 1784, liée aux découvertes du magnétisme animal par Franz Anton Mesmer, qui avait lui aussi une conception particulière de la médecine, et un de ses disciples va un jour essayer de magnétiser quelqu'un, son valet de ferme, parce qu'il est malade, et il va se mettre dans un état qu'il va appeler somnambulisme magnétique, qui sera appelé, après 1843, le mot est inventé par un Anglais, James Ouled, hypnose, et cet homme va dire qu'il voit l'intérieur de son corps, puis très vite on va avoir des femmes justement qui vont dire qu'elles voient l'intérieur de leur corps, donc elles deviennent guérisseuses, qu'elles voient aussi l'avenir, le passé, les morts, et qu'elles vont devenir voyantes. Donc on a une renaissance de la voyante appuyée sur cet état modifié de conscience, on dirait, qu'elle pense être juste.
Ça, c'est passionnant, parce que là, il y a un flou. On est à l'intersection de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Parce que d'après ce que je sais, l'hypnose, c'est quand même quelque chose qui marche et qui est
adhéré. Les rebooteux aussi, ça marche.
Le magnétisme.
On m'a enlevé le feu.
Alors, racontez-moi, ça marche, donc ça, c'est pas une légende.
Oui, j'ai été brûlé au troisième degré.
Et donc, la personne fait quoi ?
Elle a fait une petite prière, je sais pas ce qu'elle a fait.
Magnétisme.
Elle m'a mis la main dessus et elle a enlevé le feu. Mais il y a plein de gens dans les campagnes qui vous enlèvent le feu.
Le feu, oui, c'est vrai. Donc ça, c'est fascinant.
Même en ville maintenant. Non, mais bien sûr, l'hypnose, ça existe. Bien que les médecins, très longtemps, comme ils ne comprenaient absolument pas ce que c'était, on dit que ça n'existait pas, en France en particulier. Hein, l'Académie de médecine a dit que ça n'existe pas, on ne veut plus en entendre parler. Et résultat, ça a été pris en charge d'ailleurs par les religions, le spiritisme et Kardec, puisque lui s'y est intéressé. Mais cela ne veut pas dire si je... Enfin, pardon. Si quelqu'un vous met en état d'hypnose, là maintenant, ou Stéphane Bern, est-ce que vous allez pour autant voir les esprits ? Peut-être, mais bon.
Non, mais ça ne marche pas l'hypnose sur moi. Mais cela dit, ce qui est intéressant quand même dans l'histoire de la voyance, parce que là, on parle d'histoire aussi, c'est que des présidents, des chefs d'État ont consulté ces voyants.
Ça, je trouve ça dingue.
On l'a appris que Elisabeth Tessier était consultée régulièrement par François Mitterrand, même si c'est le seul as qu'il regardait, c'était sa lune. Et que Richard Nixon a consulté Jean Dixon. On sait que Léonide Brejnev suivait les conseils de la voyante géorgienne Djuna Davidchavichvili, dites la sorcière. Comment vous expliquez, les hommes politiques sont, et les chefs d'État aussi sont fascinés par ça, ils ont besoin d'être rassurés sur leur avenir ?
Des hommes politiques, de même que ceux qui vont voir les voyantes ou les voyants, puisque maintenant il y a beaucoup d'hommes, ont besoin d'être rassurés. Bon, ils pourraient aller voir un psychanalyste peut-être pour résoudre mieux leurs problèmes, du moins à mon avis. Mais ce que je sais pour les liens entre Elisabeth Tessier et Mitterrand, puisque j'ai écouté les dialogues téléphoniques qui sont à l'INA actuellement,
Mitterrand... Ça, c'est pas une gratinée, dis donc.
C'est un métier d'être historienne.
Ah, ça c'est l'histoire comme je l'aime, ça.
Vous pouvez les écouter. Les consultations étaient quand même pour des problèmes, je dirais, mineurs. C'est-à-dire, à quel moment serait-il bien que je déjeune ou dîne avec un tel ? Quel costume devrais-je mettre, etc. C'est ce que qu'on nous a laissé.
Ah oui.
Il y a peut-être autre chose.
Peut-être autre chose. Non, mais c'est fou. Est-ce que, en écrivant vos livres, et je rappelle votre livre Histoire de la voyance et du paranormal du XVIIIe siècle à nos jours aux éditions du Seuil, et votre dernier livre L'impossible consentement, l'affaire Joséphine Hugues aux éditions du Détour, est-ce que au fur de votre travail d'historienne, parfois vous avez été ébranlée? Est-ce que parfois vous vous êtes dit, comme moi ça a pu m'arriver, ou vous...
Oui, ébranlé, je ne sais pas si c'est le mot. Est-ce que vous avez été troublé?
J'y crois. Ouais. Ou en tout cas, il y a des choses quand même troublantes.
Des choses tellement troublantes qu'on se dit...
Pour l'hypnose, mais c'est autre chose. Mais pour les voyantes, non, jamais. Parce que j'ai tellement lu, et puis à la fin, donc quand le Seuil m'a demandé de prolonger jusqu'au XXe siècle, j'ai été voir des voyants qui ne m'ont pas fait de voyance. Et c'est tellement... en lien avec justement ce besoin des hommes d'être rassurés, un besoin psychologique. Quant aux prédictions, comment les astres, enfin Vénus, pourraient nous influencer ou influencer notre horoscope. Alors les horoscopes faits actuellement par Madame Soleil en faisait d'ailleurs, les horoscopes qui sont faits actuellement sont très très précis. Hein, il faut savoir l'heure, le lieu, etc. Ils sont superbes. Esthétiquement, c'est super.
Comment tirer des conclusions? En tout cas, c'était passionnant de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Nicolas Edelman. Et encore une fois, Histoire de la voyance et du paranormal du XVIIIe siècle à nos jours aux éditions du Seuil.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement vôtre. Pour autant, pas question de lever le pied. Comme disait François Fillon, le devin des devins.
Nous sommes au début d'une grande aventure. Alors tous ensemble, à l'action!
Tous ensemble, Stéphane, pour voir au cours de cette dernière demi-heure ce que le passé peut nous apprendre du présent.
Oui, Mathieu, si le passé nous apprend plein de choses, Olivier Pouls nous en apprend chaque jour aussi avec lui. On apprend à casser des œufs pour faire l'omelette de la mère Poulard.
Oh, quelle belle idée! Il est fort, cet Olivier Pouls, il est très très fort. Hein.
Quel faillot vous faites! Ah. Tiens d'ailleurs, faire son faillot, vous savez d'où ça vient?
Pas vraiment.
Eh bien, à la fin de cette émission, vous le saurez. Et vous n'aurez plus qu'à me remercier. Mais d'abord, Mathieu, je vous rappelle que vous devez nous brosser le portrait de notre troisième voyant du jour, un voyant plus contemporain, aussi plus efficace.
Le plus efficace de tous, Stéphane. En 2010, il avait vu juste pour les huitièmes de finale, pour les quarts et aussi les demi. C'est la main sur le cœur que je vous parlerai d'un mollusque parti trop tôt, Paul Le Poulpe.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Oui, vous le savez, chaque après-midi, c'est un triptyque qu'on vous propose dans Historiquement Vôtre autour d'une thématique. Aujourd'hui, dans notre spécial Voyance et Histoire de Boules, après deux personnages appartenant à un passé assez lointain, Nostradamus et Jean Dixon, pour l'heure, c'est à Mathieu de nous parler d'un médium beaucoup plus contemporain.
Oui Stéphane, quelqu'un qui a su faire preuve de beaucoup de sang-froid, malgré l'engouement disproportionné dont il a fait l'objet, lui qui ne cherchait pas la gloire, contrairement à Nostradamus et Jean Dixon, mais juste à vivre heureux. Oui, si nous sommes réunis cet après-midi à ce micro, c'est pour rendre un ultime hommage à Paul le Poulpe. Un médium d'un genre nouveau qui n'était ni dans les boules, ni dans les cartes, mais dans les moules. Si Malraux était encore parmi nous, il lui dirait certainement « Entre ici, petit céphalopode, avec ton cortège de pronostics gagnants. » Car oui, Stéphane, si Paul le Poulpe est entré avec les honneurs au Panthéon des Octopodes, c'est pour ses prédictions footballistiques lors du Championnat d'Europe 2008 et de la Coupe du Monde 2010, dont il a désigné le vainqueur. Sur 14 prédictions, 12 se sont révélées exactes. C'est son destin que je vous raconte aujourd'hui dans Secret d'Histoire, car oui, Paul le Poulpe mérite aussi son secret d'histoire. Paul le Poulpe, l'oracle d'Oberhausen. Une existence brève, 2008-2010, mais un parcours météorique. Tandis que, sorti de la maternité, ses potes, les sèches, encornés et autres calamars, ont immédiatement fini panés en sauce tartare dans un restaurant hors de prix de la Côte d'Azur, lui a su habilement sauver sa peau. J'ai envie de vous parler d'abord de son enfance, là où tout commence, là où tout prend sens, finalement. Paul est un petit mâle, poulpe très instinctif, il montre dès son plus jeune âge un sens de l'intuition hors du commun pour un simple céphalopode benthique du sous-ordre Inquirina. Nos pédopsychiatres actuels parleraient de poulpe à haut potentiel. Le responsable de l'aquarium allemand dans lequel vit en pension depuis le plus jeune âge de petit poulpe dit de lui qu'il avait une façon tellement singulière de regarder les visiteurs qui s'approchaient de son aquarium qu'ils ont eu l'idée de découvrir et de développer ses talents. Il avait quelque chose en plus. C'est magnifique, une sorte de Will Hunting version Sopiquet. Alors, vous me direz, est-ce qu'un poulpe peut regarder normalement un visiteur? Quel est le regard normal d'un poulpe? Essayez Stéphane pour voir. Une très bonne démonstration. Vous faites très bien le regard normal de poulpe, un mélange de stupeur et d'incompréhension. Vous aviez le même durant le secret d'histoire sur Robespierre. Alors, évidemment, je vous vois venir, Stéphane, en bon cartésien, vous trouvez que cette histoire de poulpe sent mauvais, avant même toute tentative de friture. Vous vous dites, comment un poulpe peut exprimer un choix véritablement clair au moment de soumettre un pronostic?
Bah oui, comment?
Eh bien, par une méthode très simple, Stéphane. Avant chaque match, on présentait à Paul deux récipients transparents percés de trous, munis d'un couvercle, contenant chacun une moule décoquillée cuite, son goûter préféré. Ah oui, on mettait la musique de Fort Boyer aussi, car Paul était fan d'Olivier Mine, avec qui il avait d'ailleurs eu une histoire assez brève aux Maldives lors d'un stage de plongée. Mais bon, Paul étant mineur à l'époque, on va pas s'étendre là-dessus. Bref, sur le premier récipient, le drapeau d'un pays. Sur le deuxième récipient, Stéphane?
Un autre drapeau.
Bon, le drapeau de l'autre pays, effectivement, puisqu'il y a deux équipes dans un match de foot. Vous connaissez mal le foot, mais vous savez ça quand même.
Oui.
Paul doit ouvrir l'une des deux boîtes en soulevant son couvercle, s'emparer ensuite de la nourriture. Son geste est alors interprété comme la désignation prémonitoire du vainqueur. Alors je sais, raconter comme ça maintenant que l'eau a coulé sous les ponts, ça paraît vraiment dramatiquement con. Et pourtant, souvenez-vous, sur les chaînes info, il n'y avait pas encore le professeur Raoult, les points d'Olivier Véran. Il n'y en avait que pour Polo.
Paul le Poulpe parade fièrement. La foule se presse, toujours plus nombreuse, toujours plus fascinée. Car Paul a encore eu raison hier soir. L'Allemagne a bien battu l'Uruguay. En plus, cette fois, Paul n'a pas blessé le patriotisme des Allemands, comme en demi-finale. Il avait pronostiqué l'Espagne, il avait eu raison. Mais certains supporters de la Mannschaft lui en ont voulu. Paul a reçu des menaces de mort, qui ont ému jusqu'au Premier ministre espagnol.
Je suis inquiet pour le Poulpe. Je suis en train de penser à lui envoyer une équipe de protection.
Voilà où on en était à l'été 2010. Et on avait le temps de se passionner pour des trucs très cons avant le Covid. Hein, c'est ça qui est génial. Les parieurs du monde entier étaient suspendus aux lèvres d'un poulpe médium qui présidait au sort des nations. Des nations dont l'éclat sur la scène mondiale ne tenait donc qu'à une moule décoquillée. Hélas, toute notoriété a ses inconvénients. Paul n'a échappé à rien, ni aux lettres d'insultes, ni aux propositions de soirée plancha, ni même, véridique, aux accusations de corruption. Un soir d'octobre 2010, probablement lassé de ce tintamarre médiatique, Paul rend son dernier souffle. Enfin, il souffle pas vu que c'est un poulpe, il est sous l'eau, mais il clame, quoi. Est-il monté au ciel, comme on dit chez nous, ou bien descendu dans la mer, comme on dit peut-être chez eux? Les responsables de l'aquarium précisent que les funérailles ont eu lieu en petit comité. Plus tard, une statue à son effigie, le représentant chevauchant un ballon aux couleurs des pays du Mondial 2010 et refermant ses cendres, a été installée à l'aquarium. Très bel objet, Stéphane, qui ne dépareillerait pas dans l'aile de votre château dédié à votre collection de fèves. Paul n'est plus, fatalement c'est dur.
C'est triste.
Mais il nous faut avancer, faire notre deuil. D'euro en mondial, de nombreux successeurs ont tenté de remplacer Paul dans nos cœurs. Zéla l'éléphant, Flock le pingouin, Funtic le porc, Nelson l'otarie Yvonne Lavache, mais ce n'est pas pareil. Le foot sans Paul Le Poulpe, c'est comme les Spice Girls sans Jerry, les Miss France sans Geneviève, les frites sans sel, ça n'a plus de sens. Au revoir, petit ange, repose en paix. Tu dois bien te marrer là-haut avec Coluche, des proches. Ouais, plus probablement René Lataupe, je pense. C'est pas...
Merci Mathieu. Alors, bon. Votre portrait, c'est 99% vrai.
Toujours.
Il y a donc 1% de faux.
Oui.
C'était quoi le faux ?
Vous l'avez trouvé ?
Oui, c'est le stage aux Maldives.
Paul Le Poulpe n'a jamais couché avec Olivier Mine. En revanche, il avait déposé une main courante contre Passepartout. Mais ça, c'est une autre histoire.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission durant laquelle on vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. L'histoire qui trouve plein d'échos dans notre vie quotidienne et notamment dans notre assiette. Pour nous raconter l'histoire d'un plat, on accueille un homme qui s'est peut-être trompé d'époque. Féroce défenseur de la gencive de porc et du lièvre à la royale, il est bien peu à son aise dans une époque qui prône le light et le détox. Des mots qu'il ne comprend pas, lui qui parle le langage du plaisir, comme il me le disait encore l'autre soir quand j'ai eu le malheur de commander une salade.
Ici, on ne prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là ? Plaisir.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis.
Vous êtes un peu notre Eddie Mitchell à nous.
Oui. Et si j'avais été pervers, je vous aurais proposé une recette de poulpe catalane, par exemple.
Le poulpe en plus.
J'ai trop de respect pour Paul, voyez-vous.
Moi aussi.
Pour
vous savez, je ne mangerai plus jamais du poulpe de la même manière. Depuis que j'ai travaillé.
Vous en mangerez quand même encore.
J'en mangerai encore, mais pas de la même manière. Avec respect. Voilà,
c'est vrai que c'est bon le poulpe.
Je me recueillerai un peu avant. Alors aujourd'hui, pas de poulpe, une omelette.
Une omelette, mais pas n'importe quelle omelette. La célèbre omelette de la mère Poulard. Alors je sais ce que vous allez me dire, mon cher Stéphane, vous m'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, l'omelette la plus chère du monde aujourd'hui. Oublions un peu ce qu'est devenu aujourd'hui cette institution de la mère Poulard, qui est devenue un grand groupe industriel avec des restaurants partout, des biscuiteries, etc. On va revenir à l'histoire même, à la création de cette omelette et de cette femme assez incroyable qui, en réalité, est née au 19e siècle. Elle n'est pas née au Mont-Saint-Michel, elle est née à Nevers.
Ah oui.
Elle était femme de chambre et elle arrive au Mont-Saint-Michel en 1872 comme femme de chambre d'ailleurs. Elle rencontre et épouse le fils du boulanger du Mont-Saint-Michel, un certain monsieur Poulard, et ils reprennent une petite auberge. Et très vite, en fait, elle va mettre au point une simple omelette qu'elle utilise en fait pour faire patienter les clients qui viennent, manger d'ailleurs d'autres plats.
Mais tu bouffes cette omelette, après tu ne peux plus manger derrière.
Oui, mais elle
est très légère. Hein.
Oui, elle est très légère. C'est ça le secret de l'omelette. Oui, et je vais dans un instant vous dire comment la réaliser. Et alors ces omelettes font un tabac, elle devient une curiosité gastronomique du coin. Georges Clémenceau se rend là-bas, le roi de Belgique d'ailleurs, Léopold II, va manger des omelettes là-bas. Alors comment fait-on cette fameuse omelette et pourquoi est-elle si fantastique.
Mais elle est bizarre, surtout, elle est grosse.
Elle est grosse, elle est soufflée.
Parce que c'est un soufflet. On monte les blancs en neige, c'est ça ?
Oui, mais Stéphane sait déjà tout, parce que je suis sûr qu'il la réalise chez lui. Et
non,
oui,
je n'ai jamais réalisé, mais j'y ai goûté. Bon, c'est très bon, oui. C'est léger, ça.
C'est vrai que c'est très léger. Elle a une texture très différente des autres omelettes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça ne vaut pas 38 euros l'omelette. Hein, surtout quand on sait qu'il faut quand même que des œufs.
Mais oui, c'est hors de prix.
Oui, mais il faut faire très bien.
Vous allez la faire chez vous et vous allez donc économiser 37 euros. Parce qu'avec 1 euro de matière première, vous allez pouvoir la faire.
Alors,
et même vous, mon cher Stéphane, ça vous coûte encore moins cher parce que je sais que vous avez des poules et des œufs.
J'ai les œufs.
0
euros. C'est mes poules, donc elles me font des œufs.
Est-ce que vous avez des vaches qui vous font un petit peu de crème fraîche?
Non.
Dommage.
Et les chèvres, je ne les traite pas.
Ah, bon, voilà.
Étonnant. Alors vous allez... Scoop étonnant. Je vous voyais bien.
Traire
vos chèvres le dimanche naine. Matin. Des chèvres naines, c'est plus facile à traire.
Ça donne du tout petit lait, alors.
Vous les mettez sur les genoux directement et hop.
Donc, vous allez devoir acheter un peu de crème fraîche et un peu de beurre. Et en fait, c'est vrai que le secret, c'est que vous séparez les blancs des jaunes. Et les blancs voulaient monter en neige. Bah, Mathieu, un tout petit peu d'entraînement.
C'est dur à faire ça.
Un robot,
ça.
Alors.
Non.
Un robot.
Monter les blancs en neige.
Bah, oui, pas à la main.
Vous pouvez le faire au robot.
Ah, à la main, bah, oui.
Avec un...
Mais parce qu'à la mère Poulard, il y a quelqu'un qui nous fait la démonstration devant.
Oui,
qui...
oui,
je pense
que
c'est pour le décor.
Évidemment, c'est pour le folklore.
Vous allez le faire,
évidemment, avec un batteur. Et donc, vous allez mélanger la crème avec les jaunes.
La crème avec les jaunes, d'accord.
Un petit peu. Vous allez faire fondre du beurre dans une poêle. Alors, la mère Poulard, elle cuisait l'omelette au feu de bois, ce qui était aussi quelque chose d'assez spectaculaire, parce que dans un bel âtre comme ça, devant tout le monde, c'est
vrai
que c'est
beau. Un bel âtre, il sait ce que c'est.
Ouais, bah oui. Donc, vous allez le faire sur votre cuisinière d'appartement, hein, mon cher Mathieu, ça marche tout aussi bien. Faites fondre le beurre, vous rajoutez donc les jaunes et la crème, et puis vous allez, en trois fois et petit à petit, incorporer vos blancs montés en neige. Et c'est là que vous allez voir que cette omelette va devenir spectaculaire parce qu'elle est gonflée. Donc vous la laissez prendre, vous la retournez, et puis il n'y a plus qu'à la servir en l'agrémentant comme vous voulez. Alors je parle un peu de jambon, de fromage, de champignons, de tout ce que vous voulez. Et vous avez une omelette d'une texture vraiment bluffante. Faites-le ce soir, vous allez voir, c'est vraiment super.
Si je peux me permettre, c'est spectaculaire, mais est-ce aussi bon qu'une omelette baveuse? Je ne le trouve pas, personnellement, mais c'est mon goût.
Eh bien, nous pouvons faire avec.
Je suis d'accord.
Mais en tout cas, elle est quand même assez baveuse. Elle reste très moelleuse. Hein.
J'ai demandé à la famille, au restaurateur de donner la recette. Ils n'ont jamais voulu.
C'est vrai. Elle prétend qu'elle est secrète depuis 130 ans.
C'est un secret gardé depuis 130 ans.
Mais non, mais il n'y a pas de secret.
Sur Europe 1, ça ne m'a rien coûté.
C'est cadeau.
Europe 1.fr.
Donnez-moi 28 euros quand même.
On aura peut-être un procès d'ailleurs, mais merci quand même, Olivier.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
vôtre. Quand il m'a rencontré pour cette émission en guise de casting, Stéphane Bern a demandé à ce que je lui montre ma culture générale. Tenant à mon job, je me suis exécuté.
Ah, c'est pas mal.
Mais désormais, c'est moi qui le mets au défi à chaque fin d'émission, celui de nous expliquer l'origine d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane.
Eh bien, aujourd'hui, c'est la Saint-Mathieu.
Oui. Oh oui, alors, merci, vous avez pensé.
Bonne fête à tous les Mathieu, mais surtout à vous, cher Mathieu. Oh. Alors, si dans les couloirs d'Europe 1, si un assistant vous souhaite votre fête et qu'il vous assure que les Mathieu sont désirables, bien bâtis, dotés d'une verve qui ne fait...
Une verve, oui, verve, dotée d'une verve, oui.
Qui ne fait jamais défaut. Oui. C'est peut-être parce que vous êtes tombé sur un faillot.
Oh non.
Faire son faillot. D'où vient cette expression ? Eh bien, imaginez-vous que ça vient de la marine militaire du 19e siècle. En raison de son coût très faible, on servait très souvent à bord des faillots qui étaient très, très faciles à conserver.
Oui, mais alors, la question reste posée. Quel est le lien entre ce plat roboratif et à la réputation sulfureuse d'ailleurs, et les personnes qui essayent de se faire bien voir auprès de leur hiérarchie ?
J'y viens, Mathieu. Oui, les Mathieu ont beaucoup de talent, mais ils sont impatients aussi. Alors, les faillots n'étaient vraiment pas appréciés par les marins. Et pourtant, une fois leur contrat terminé, malgré des perspectives alimentaires peu motivantes, ils se réengageaient quasiment systématiquement. En acceptant les conditions difficiles proposées par leur patron, ils devenaient des faillots, des personnes peu contrariantes et se soumettant à leur chef. Aujourd'hui en Angleterre, comme chez nous d'ailleurs, on utilise l'expression « a bootlicker », un lèche-botte. Au Québec, également comme chez nous, mais dans un langage plus fleuri, on dit « un lèche-cul ». Voilà, quant à moi, si j'ai parfois la réputation d'être un faillot, c'est peut-être parce que souvent mes phrases sont composées d'un sujet, d'un verbe et d'un compliment.
Ça, c'est tout vous, Stéphane, c'est vrai.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre se termine et je vois passer dans votre regard, Mathieu, comme un voile brumeux d'infinie tristesse.
Bon, moi, que ce soit juste le début d'une conjonctivite, ce qui serait plus chiant. En tout cas, on se retrouve demain dès 16h pour un programme une fois de plus alléchant, Stéphane. Vous permettez que je lise dans vos boules?
Faites donc, je vous en prie.
Elles sont fort lisibles. Demain, nous vous attendons pour une spéciale. Ils sont arrivés deuxième, mais on les aime quand même. Alexandre Graham Bell, qui en fait n'a pas inventé le téléphone. Buzz Aldrin, qui vous le savez, a été le deuxième homme à marcher sur la Lune. Et Bill Gates.
Mais pourquoi Bill Gates ?
Parce qu'il n'est plus que deuxième, Stéphane. Deuxième fortune du monde. C'est la lose pour Bill. Sinon, deuxième loser, mais sympa. J'ai Stéphane Bern, toujours deuxième sur deux dans le quiz.
Oui. C'est Bezos le numéro 1 ?
C'est Bezos le numéro 1, oui, Stéphane. Et vous, vous êtes numéro 3. On en parlera demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.